Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc Desormeaux et cette semaine j'animerai seul cette émission, mais émission qui va quand même être assez chargée. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les derniers jours. Il y a le Salon de New York où Marc est présentement. Il y a aussi l'annonce du Kona électrique qui s'est fait, que vous allez entendre parler un peu plus tard avec Martin Archambault de l'Avec, parce que j'ai une chronique voiture électrique avec lui. On parlait un peu du Kona, mais je vais vous donner un peu de nouvelles du Kona avant que vous entendiez l'entrevue que j'ai faite avec Martin, mais l'information est rentrée après, donc je vais vous donner un peu d'informations là-dessus. Puis on a aussi les gagnants des prix de l'AJAC pour la voiture verte de l'année et le véhicule utilitaire vert de l'année. Donc, pour commencer, c'est quoi un véhicule vert? Ben, j'ai vu des commentaires sur Facebook concernant le gagnant de cette année en disant « Ouais, mais ça veut dire quoi, vert? » Ben, un véhicule vert, selon la l'AJAC, c'est un véhicule qui, par sa taille et son usage, offre des avantages éco-énergétiques aux consommateurs canadiens en comparaison aux autres véhicules de son segment. Il y en a un dont les gens se questionnaient un peu, et le gagnant, c'est pour le véhicule utilitaire vert de l'année, ben, ça a été le Kia Niro qui a gagné. Et les gens se disaient, ben, est-ce que c'est la version électrique? Est-ce que c'est la version électrique branchable? Non, c'est la version à essence, mais c'est un véhicule qui est très efficace pour ce qu'il est. Donc, qui donne des consommations d'essence vraiment basses avec un confort de roulement quand même très bien et des performances qui sont impressionnantes. Donc, on en a déjà parlé du Kia Niro sur l'émission. C'est un véhicule qu'on a tous bien aimé. Donc, c'est lui qui a gagné véhicule utilitaire vert de l'année. Pour la voiture verte de l'année, ben là, c'est pas vraiment surprenant et c'est vraiment un véhicule vert. C'est la Chevrolet Bolt. Donc, Chevrolet Bolt qui est présentement la voiture abordable, peut-on dire, qui a la plus grande autonomie sur le marché. Donc, c'est la Chevrolet Bolt qui a gagné ce prix-là. Donc, félicitations à Chevrolet et Kia pour leur victoire. Ensuite, ben c'est le Salon de New York. Il y a beaucoup de choses qui se passent présentement. Kia est allé assez fort à New York avec des lancements ou des rafraîchissements de certains modèles qui sont déjà existants. Pas de nouveaux modèles, là, mais on a eu le droit de voir la nouvelle Kia K900. On en avait parlé il y a quelques semaines, je pense. Puis je disais, bon, ben, tu sais, Kia, ça n'a pas été vraiment un succès, le K900. Est-ce que pourquoi il se lance là-dedans une seconde fois? C'est peut-être à cause des succès de Genesis. Et quand on regarde la nouvelle Kia 900, ben elle a des petites airs de famille à la Genesis, là. C'est un véhicule qui est beaucoup plus qui a l'air beaucoup plus luxueux que ce qu'on a normalement dans la gamme Kia. Pas que les voitures Kia sont pas luxueuses, mais celle-là, on y a donné un petit peu plus, la calandre plus grosse, les phares plus gros. Ça a l'air vraiment d'une voiture de luxe. Ça a presque l'air d'une Mercedes ou d'une Genesis, là. Donc, c'est très bien fait. Donc, la nouvelle Kia K900 qui va arriver probablement sur le marché dans un avenir proche. Aussi, Kia a pris le temps au Salon de New York de nous présenter son nouveau Kia Sedona. Donc, Sedona qui est le véhicule, là, bon, ça a été rafraîchi. C'est l'espèce de caravane de Kia qui est une belle voiture, beau véhicule. Bon, il a donné encore une allure un peu plus luxueuse, là. Kia qui délaisse un peu le look, l'allure sport qu'on leur connaissait un peu plus avant, pour quelque chose de plus luxueux avec une calandre un peu plus imposante et des phares plus beaux, plus gros, des choses comme ça. Donc, on délaisse un peu l'allure sportive pour aller vers une allure plus luxueuse chez Kia. Donc, aussi le Sedona qui a été présenté. Ensuite, la grande vedette de chez Kia, la Kia Optima, qui a été aussi présentée en version rafraîchie à New York. Pas beaucoup de changements là, côté design, là, c'est quelque chose qu'on reconnaît tout de suite. L'Optima qui est une belle voiture, une bonne voiture aussi, une voiture que j'ai toujours aimé conduire, donc ça changera pas vraiment pour ce modèle-là. On rafraîchit un peu le design et tout ça, là. Donc ça va être encore un véhicule qui va avoir beaucoup de succès pour Kia, surtout probablement au Québec, on en voit pas mal sur nos routes. Donc une Kia Optima qui a été aussi rafraîchie. Donc, c'est pas mal ça pour Kia. Ils ont présenté ces modèles-là, Optima, Sedona et puis aussi le nouveau K900. Si on va chez Toyota a présenté le nouveau RAV4. Et puis, ça l'a surpris certaines personnes que le RAV4 maintenant a presque l'air d'un Tacoma TRD ou ça a vraiment une calandre de camion. Donc, on a vraiment changé l'allure, puis je pense que ça va faire du bien. Puis je pense que Toyota est en train de se démarquer côté design, ce qui était vraiment pas leur tasse de thé là, dans les dernières années. C'était vraiment quelque chose où on regardait une Toyota et on trouvait ça un peu plate. Mais là, Toyota qui est en train de se démarquer vraiment côté design. On a des designs beaucoup plus agressifs. Et le nouveau RAV4, c'est vraiment ça. Faut aimer, par exemple, il y a des gens qui aimeront peut-être pas. Si vous aimez une allure plus tranquille pour votre petit VUS, ben c'est peut-être pas quelque chose que vous allez beaucoup aimer. Mais personnellement, j'aime beaucoup l'allure des camions Toyota, les Tacoma et des choses comme ça. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui pensent peut-être comme moi aussi, qui vont bien apprécier le nouveau RAV4. Puis ça sort un peu du lot, là, parce que les VUS commencent à se ressembler un petit peu partout. Donc avec ce RAV4-là, Toyota va se démarquer côté design aussi. Ça va faire du bien. Si on regarde chez Hyundai aussi a présenté plusieurs nouveaux véhicules au Salon de New York, nouveau Santa Fe, nouveau Tucson, mais ce qui a retenu le plus l'attention, c'est le nouveau Hyundai Kona totalement électrique 2019. Il devrait arriver sur le marché canadien vers la fin de 2018, en quantité limitée, j'imagine, peut-être plus début 2019, mais c'est un véhicule qui va être très, très populaire parce que bon, il va offrir une bonne autonomie. Selon le communiqué de presse de Hyundai, on estime une autonomie de 400 km. Bon, c'est estimé. Est-ce que ça va être vraiment ça? La Chevrolet Bolt fait à peu près 400 aussi. On est capable de faire 400, peut-être même un peu plus si on conduit de manière convenable pour un véhicule électrique, là. Si on la pousse un peu, c'est un peu moins, mais on est capable d'atteindre le 400 km. Est-ce que le Kona électrique va être capable de faire aussi bien ou mieux? Ça va être une question à laquelle on va pouvoir répondre un peu plus tard au courant de l'année, quand le véhicule arrivera sur le marché. Beau véhicule qui a une allure assez agressive. Comme je disais, on a parlé un petit peu avec Martin dans la chronique que vous allez entendre après, mais c'est un véhicule qui va probablement avoir beaucoup de succès en version essence, en tout cas au Québec. Est-ce que la version électrique va aussi attirer une nouvelle clientèle? Est-ce que c'est le véhicule qui va faire que les gens qui veulent un véhicule électrique vont finalement se décider à y aller? La question va être aussi, est-ce qu'ils vont en avoir de disponibles? Si les gens sont obligés de commander 6, 7, 8 mois à l'avance pour avoir leur véhicule, ça va peut-être en ralentir plus d'un, mais on verra ce que ça va donner. Aussi, il n'y aura pas de traction intégrale de disponible. Ce n'était pas nécessairement indiqué dans le communiqué de presse. On ne parlait pas de traction intégrale. On parlait vraiment juste de la puissance moteur et tout ça. Ben, j'ai posé la question à Hyundai, puis on m'a répondu non, il n'y aura pas de traction intégrale de disponible sur le Kona entièrement électrique parce que on a besoin de cet espace-là pour mettre les batteries. Donc, pas de version à traction intégrale ou all-wheel drive qu'on appelle pour le Kona électrique parce que, bon, on a besoin de cet espace-là pour les batteries. Je peux comprendre. De toute façon, la traction intégrale au Québec, c'est vraiment bon l'hiver et tout ça. On est capable de s'en sortir si on a des bons pneus d'hiver et si on conduit de manière responsable. On est capable de s'en sortir sans. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un véhicule qui, personnellement, m'intéresse grandement. Mon Ford Escape commence à prendre de l'âge et on aimerait ça avoir un VUS, mais un VUS électrique, ça serait peut-être un gros plus pour nous aussi. Aussi, au Salon de New York, il y a GM qui a présenté le nouveau Cadillac XT4, qui est un petit VUS. Si vous connaissez le XT5, véhicule que j'ai essayé, je pense que c'est l'année passée, que j'avais bien apprécié. J'avais pas nécessairement adoré le système de transmission qu'on a dans ce véhicule-là. C'est un peu pas intuitif et un peu mélangeant, mais quand même, c'est un véhicule qui devrait avoir beaucoup de succès pour Cadillac. Cadillac qui cherche à se démarquer un peu, puis je trouve ça un peu dommage parce qu'ils ont des bons véhicules avec l'ATS, le XT5, comme je disais, puis là, le XT4. J'espère qu'ils vont réussir à se sortir un peu de cette espèce de pensée là, que les gens ont, que c'est un véhicule pour personnes âgées, puis que c'est pas un véhicule qui est amusant à conduire et qui est pas dynamique. C'est vraiment le contraire. C'est des véhicules qui sont rendus dynamiques et amusants à conduire, puis sont quand même jolis. C'est des beaux véhicules. Donc, j'ai hâte de voir un peu comment le XT4 va se démarquer sur le marché québécois et canadien, là, parce que j'ai hâte de voir si les gens vont s'en aller vers ça, puis si les gens vont aimer ce véhicule. On va voir. C'est très joli. Ça sort un peu du lot. Donc, j'ai hâte de voir si ça va être populaire ou non. Ensuite, Mazda a présenté une version rafraîchie de son petit VUS, le CX-3. On a enlevé le frein de stationnement mécanique pour mettre un frein de stationnement électronique, ce qui va donner un peu plus d'espace de rangement à l'intérieur. On a aussi maintenant la possibilité d'avoir des sièges en cuir au complet. Là. Avant, c'était cuirette et un mélange cuirette et tissu, si je me rappelle bien. Là, c'est cuir au complet pour les sièges. Et puis, on a aussi modifié le moteur Skyactiv 2 litres pour le rendre un peu plus souple et un peu plus efficace. Donc, quelques petites améliorations pour le Mazda CX-3. Et pour finir, mauvaise nouvelle, là, c'est quand même assez tragique. Il y a eu un accident qui s'est produit en Arizona et puis ça a causé la mort d'un piéton et ça met en cause un véhicule autonome Uber. Donc Uber qui fait des tests de voitures autonomes, on s'aperçoit chez Uber là, que la seule manière d'être profitable, c'est d'enlever les conducteurs et de remplacer ça par des véhicules autonomes. Donc ils sont en train de faire des tests en Arizona. Et malheureusement, il y a une piétonne qui a été happée et tuée par ce véhicule-là. C'est un véhicule qui faisait des tests et qui avait un conducteur d'urgence qui était assis quand même au volant. Et puis la dame a sorti vraiment comme d'une ruelle ou d'une autre rue. Et puis est arrivée pour traverser une rue qui est à trois voies. C'est vraiment des rues assez larges. C'est même pas une autoroute, c'est des rues qui sont assez larges et ça a l'air assez commun en Arizona, selon ce que j'ai entendu. Et puis, elle est arrivée, il faisait noir, et puis elle est sortie à peu près de nulle part, et le véhicule n'a pas eu le temps d'arrêter. Et puis, la piétonne a été frappée et est morte sur le coup ou vers son transport à l'hôpital. Là, j'ai pas eu tous ces détails-là. Mais là, tout le monde avait l'air de vouloir dire que, c'est une erreur de la piétonne, elle n'aurait pas dû traverser, elle aurait dû regarder, ralentir et attendre puis avant de traverser. Mais là, il y a des gens qui ont examiné la vidéo parce qu'il y a une vidéo disponible. Chaque véhicule autonome a une vidéo embarquée, donc une caméra embarquée qui prend des vidéos de tout ce qui se passe pour pouvoir faire des analyses et tout ça. Et puis, quand les gens regardent cette vidéo-là et on travaillait un peu le contraste là, parce qu'on voyait vraiment pas tellement bien vu que c'était de nuit. Mais en retravaillant le contraste, se sont aperçus que la voiture aurait dû avoir à peu près 5 secondes pour arrêter avant de frapper la dame. Donc, est-ce que c'est un défaut dans le système de Uber? Là, ça a l'air à s'en aller vers plus Uber aurait un problème et serait en partie responsable de ce qui s'est passé. Mais la personne qui était au volant aussi, elle regardait son téléphone, elle ne regardait pas en avant. Et puis, il y a des rumeurs qui disent qu'il y aurait un des radars qui aurait été désactivé pour justement faire certains tests. Et c'est ce radar-là qui aurait pu détecter le piéton. Et la dame aurait peut-être pu pas être tuée ou blessée par cet incident-là. Donc, c'est toujours sous enquête. J'imagine qu'on va avoir plus de détails dans un avenir rapproché. Mais présentement, Uber a complètement cessé les tests de voitures autonomes jusqu'à temps que l'enquête dise qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que c'est le système qui était défectueux? Est-ce que c'est le piéton ou la dame qui est en cause? On va le savoir probablement un petit peu plus tard. Donc, c'est tout pour ce bloc. On va faire une petite pause, puis on va revenir avec Martin Archambault et notre bloc voiture électrique. Alors, nous sommes de retour et on rejoint notre spécialiste en véhicules électriques, Monsieur Martin Archambault de l'AVEC. Salut, Martin.
Salut, Luc. Comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Ça va, numéro un.
Super. Donc, Martin, quelques sujets ce soir. La première chose qu'on va commencer avec, c'est à ta dernière intervention, tu étais venu nous parler d'une pétition que l'AVEC avait mis de l'avant pour avoir plus de bornes de recharge rapide au Québec. Qu'est-ce que ça a donné finalement?
Ça a super bien fonctionné. Écoute, puis je te remercie pour l'exposure que tu nous as donné, puis les gens qui écoutent, là, qui ont participé. Ça a été un beau succès. On est rapidement devenu la pétition sur le site de l'Assemblée nationale qui avait le plus de signatures. On a récolté 11 000 signatures, puis je pense que la pétition qu'on avait le plus avant nous autres, elle en avait 5 ou 6 000 tout de suite après. Fait qu'on était on était bien contents de ça. Donc, on a pu battre également le le nombre de signatures qu'il y avait eu dans la dernière pétition de gens qui avait été faite il y a quelques années pour la loi zéro émission. Mm-hmm. Donc, on était bien content des résultats et la pétition, une fois que c'est terminé, là, que la période pour le signer se termine, après ça, il y a un délai pendant lequel la pétition doit être déposée à l'Assemblée nationale, puis ça doit être appuyé, le fait par l'intermédiaire d'un député. C'était fait par l'intermédiaire du député Gaudreau au Saguenay. Donc, elle a été déposée formellement à l'Assemblée nationale. Et là, ben, cette pétition-là et plein d'autres pétitions sont déposées, puis plein d'autres projets sont déposés. Et là, ben, les ministres vont se réunir et vont décider, là, vont donner une priorité à chacun de ces projets-là pour être capable de les traiter. Donc là, ce qu'on demande de faire maintenant, c'est vous aller sur notre site web, là, aveq.ca, on vous donne comment faire, trouver votre député, puis d'écrire à votre député, puis lui dire que c'est important qu'il porte attention à la pétition en question, parce que là, elle est déposée. Le gouvernement sait que 11 000 personnes l'ont signé, mais maintenant, c'est pas juste de recevoir la pétition, il faut qu'il fasse de quoi avec.
Oui, c'est ça. Il faut qu'il mette le cadran, réveille tout le monde. Puis que...
Exactement. Ouais. On sait déjà entre les branches, parce que là, on est connecté un peu partout sans faire de jeu de mots, et qu'il y a déjà des projets là, sur leur table à dessin en lien avec ça, avec l'électrification des transports puis des bornes supplémentaires. On n'a pas tous les détails. On a des pistes qui sont un peu brouillées parfois quand il y a des commentaires qui sont donnés, entre autres le premier ministre qui a dit que c'était un objectif peu ambitieux, probablement qu'il confondait les bornes de recharge tout court puis les bornes de recharge rapide dans son commentaire. Fait que là, on attend de voir un peu ce qu'ils vont nous amener, mais chose certaine, on est content du résultat maintenant. Il ne faut pas arrêter de notre côté, on va continuer à, comme on dit, taper sur le clou pour être certain que la pétition va se rendre jusqu'à la mise en place de la prise de décision en faveur là, de l'augmentation du nombre de bornes de recharge rapide, ça c'est bien certain.
Oui, parce qu'on veut augmenter le nombre de voitures électriques dans le parc automobile québécois, ben, il faut donner la chance aux gens de pouvoir se recharger s'ils veulent faire des longs trajets.
Exactement, parce que sinon, on est contre-productif. On dit aux gens, achetez-en. Mais plus vous en achetez, moins on met en place ce qu'il faut pour être capable de le supporter sur la route. C'est pas trop, trop logique.
Non, c'est ça. Donc, on va voir ce que ça va donner. On espère bien que ça va être accepté, que ça va passer, puis que ça va être mis de l'avant, parce que des bornes de recharge rapide, ben, ça en prend plus.
Yes.
Donc, aussi, tu veux nous parler du Hyundai Kona électrique, totalement électrique. Le Kona qui est disponible présentement en version à essence chez les concessionnaires. Là, j'en ai vu quelques-uns. J'en ai même vu un sur la route, ce qui est quand même bien. Mais là, Hyundai a annoncé une version totalement électrique, puis elle va être au salon du véhicule électrique de Montréal. Tu veux nous parler du Kona aussi en majeure partie. Là.
Oui, oui, bien sûr. Ben, en fait, c'est un peu ça, c'est que le Kona EV, c'est un véhicule qui est attendu pour plein de raisons. C'est que dans ce segment-là, il faut comprendre, ben, je pense que tes auditeurs connaissent un peu les véhicules. Là, c'est le même véhicule physiquement, il n'y a pas de différence. Là, donc, c'est un petit SUV urbain. Là, donc, c'est une voiture qui a une forme intéressante, qui a une shape intéressante, un peu différente de ce qu'on est habitué de voir dans les modèles traditionnels, entre guillemets, de voitures électriques. Donc, il y a beaucoup d'amateurs de véhicules électriques qui attendaient la sortie de ce véhicule-là. Puis le fait que ce soit également un véhicule Hyundai, le premier véhicule de masse là, de Hyundai dans le véhicule électrique, qui est la Ioniq, a beaucoup fait jaser positivement. C'est une voiture qui est excessivement performante en termes de kilomètres qu'on peut rouler pour la grosseur de la batterie. C'est-à-dire qu'elle utilise l'énergie d'une façon étonnamment performante. Ouais. Et puis, ben, sans penser que ça va nécessairement être la même chose avec un véhicule plus gros, plus pesant, on peut quand même s'attendre pour un SUV électrique là, d'avoir des performances qui sont intéressantes. Fait que c'est un véhicule qui est très attendu, qui a été déjà annoncé d'entrée de jeu en deux déclinaisons, c'est-à-dire la déclinaison avec un moteur de 99 kW puis une batterie là, de 40 kWh, 39,4 précisément kWh. Donc ça, c'est l'équivalent en termes de batterie de la nouvelle Leaf 2018, par exemple. Mm-hmm. Et elle devrait faire le 9,3 le 0-100 km en 9,3 secondes, puis avoir une autonomie d'à peu près 300 km là, selon le nouveau cycle européen. Toujours, il faut faire attention quand on va ramener ça selon une logique un peu plus terre-à-terre, ça va être un peu en bas de ça.
250 Canadiens.
Exactement. Exactement. Mais tu sais, la nouvelle Leaf fait le 240 assez bien. Là.
Ouais, ouais.
Donc, on peut penser que si la batterie est plus performante, par contre, le véhicule un peu plus pesant, On va être dans les alentours de 250. Et elle vient aussi, l'autre option, c'est de la prendre avec un moteur de 150 kW et une batterie de 64 kWh.
Ouais.
Donc là, on va avoir une autonomie, encore selon le cycle européen, de 470 km. On va être plus aux alentours de 420, quelque chose du genre.
Ouais.
Mais on va faire le 0-100 en 7,6 secondes. Donc, ça reste que c'est un véhicule qui va être intéressant, qui a une calandre assez aérodynamique. Là, s'il y en a qui l'ont vu.
C'est assez agressif. Là. Pour ceux qui auraient vu les publicités à la télévision, c'est le VUS orange que Guillaume le Métivier se promène dedans, là, puis il parle de VUS urbain avec traction intégrale. C'est exactement ce véhicule-là. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir une grille à l'avant, ben c'est une calandre fermée, parce qu'un véhicule électrique, on n'a pas besoin de grillage pour refroidir le moteur. Là. Donc, c'est une calandre fermée, mais côté design, c'est la même chose.
Là. Exactement. Donc, il va être présent au Salon du véhicule électrique de Montréal. S'il y en a qui sont intéressés de venir le voir, ben, le salon, je vous rappelle, c'est du 20 au 22 avril 2018. C'est à la place Bonaventure. Les gens qui sont membres de l'AVEC, vous allez sur notre site, là, puis même je dirais, j'oserais le dire et je vais le dire pour tes auditeurs, pas besoin d'être membre, là, juste être sympathisant, venez faire un petit tour sur notre site web et puis il y a un code promotionnel qui vous permet d'avoir des billets à prix réduit pour aller au Salon du véhicule électrique de Montréal. Donc, venez faire un tour, vous pourrez voir le Kona, puis vous pourrez venir me voir en même temps sur place. Je vais être là pas mal toute la durée du salon. Je donne des conférences à tous les jours, puis je vais également être au kiosque de l'AVEC.
Ouais, c'est un beau salon, ça vaut la peine d'aller faire un tour. C'est moins long que faire le tour du salon de l'auto de Montréal, là, mais c'est quand même une belle petite avant-midi. Là, vous faites le tour, puis c'est intéressant. Puis il y a des beaux véhicules.
La chance de parler, de voir les véhicules, parler avec des gens des différentes compagnies, beaucoup de sympathisants. L'AVEC, comme je disais, on est là, mais également des fabricants de bornes, des gens du gouvernement. Donc, c'est un peu comme un hub intéressant où toute l'information sur les véhicules électriques converge pendant ce week-end-là. Donc, c'est une bonne chose si ça vous intéresse de venir faire un tour.
Super. Aussi, il va y avoir des nouveaux taxis à Montréal. Il y a une compagnie chinoise qui est BYD ou BYD qui a fait homologuer ses véhicules pour devenir taxi à Montréal. Parle-nous de ça.
Ben oui. Il va y avoir de la concurrence pour les Théo Taxi. En fait, d'entrée de jeu, il faut savoir, bon, BYD, on connaît pas beaucoup ça ici en Amérique, là, mais c'est une immense compagnie de fabrication de véhicules électriques. C'est eux qui fabriquent, en fait, c'est la compagnie qui fabrique le plus de véhicules taxis électriques au monde. C'est une compagnie chinoise. Il y a énormément de véhicules BYD en Asie qui roulent. Puis, on est un peu loin de l'Asie, là. On a toujours tendance à penser que les véhicules électriques, ça roule autour de l'Amérique puis de l'Europe, mais non, en Asie, il y en a de plus en plus, des lois aussi assez agressives là-bas qui poussent les manufacturiers à faire le tournant électrique. Donc, BYD, ils ont des millions de véhicules de construits électriques, fait que même si on a l'impression que c'est nouveau, ça ne l'est pas. Et ils ont un modèle qui a été construit, un modèle de voiture là qui a été designé uniquement dans le but de faire du taxi, c'est-à-dire qu'ils l'ont conçu pour créer des voitures taxi avec les dimensions, les caractéristiques puis tout ça. Donc, le petit modèle de taxi là, qu'on voit un peu partout en Asie, ben ça en vient ici. C'est un des groupes d'investisseurs canadiens qui ont décidé là, d'amener les taxis BYD. Il est en homologation depuis plusieurs semaines. Et puis, il y a deux modèles qui étaient en homologation, si je ne m'abuse. Et le premier modèle a été homologué. Il commence à circuler dans les rues. J'ai même vu, je pense que Daniel Breton va en avoir un au courant de la semaine là, en essai. Puis, il va l'avoir en démonstration chez Montréal Autoprix. Donc, on prévoit avoir une flotte de 25 à 50 taxis pour commencer. C'est des petits taxis qui coûtent environ 60 000 $, c'est-à-dire à l'achat. Il faut comprendre que c'est des véhicules qui sont spécialisés, donc qui ont de l'équipement spécialisé dedans et qui ont une autonomie d'environ 300 km par charge.
Okay.
Ils ont leur propre système de chargeur. C'est un peu particulier. J'ai pas tous les détails. Je devrais les avoir bientôt, mais on m'a dit là, que c'était ça se branche pas et ça se recharge pas avec les mêmes chargeurs que les voitures qu'on est habitué de voir ici en Amérique. Donc, ça viendrait avec son mon propre chargeur, mais comme je vous dis, là, dès que j'aurai plus de détails, je pourrai vous les amener puis vous le donner. Mais on peut s'attendre à ce que aussitôt que cet été, et dès que les permis vont être obtenus, ces petits taxis-là vont circuler dans les rues de Montréal. Évidemment, il n'y a rien qui ressemble plus à un taxi qu'un autre taxi, surtout qu'ils commencent à être lettrés à Montréal avec un bonjour dessus puis tout le kit. Là. Donc, ça ne fera pas exception. Ils vont être comme ça, mais quand même, c'est une voiture qu'on n'est pas, c'est une marque qu'on n'est pas habitué de voir. Fait que j'ai l'impression que si vous gardez l'œil ouvert, vous risquez d'en voir passer là, peut-être d'ici la fin de l'été. Là, donc, ça pourrait être bien intéressant.
Tu sais, je suis présentement sur le site de BYD. Ça ressemble à, je dirais, une Kia Hatchback des années 90 à peu près. Là. C'est pas hyper joli comme véhicule, mais si on regarde, là, c'est le site américain. Là, c'est 250 000 par recharge, 2 heures pour une charge pleine. Ça coûte 3 sous du 1000 à rouler. Puis si on regarde ouais. Le chargeur, là, il parle d'un V2G 480 volts à 3 phases, 2 heures de 0 à 100%.
Ouais, exactement. Donc, c'est en fait, c'est ça, là. C'est que le chargeur, c'est un chargeur haute tension, donc à haute puissance, mais qui n'est pas un chargeur en courant continu comme on est habitué de voir, nous, quand on voit une BRCC. BRCC, ça veut dire borne de recharge à courant continu. Ouais. Dans le cas de la BYD, là, puis le modèle de voiture, en passant, on ne l'a pas dit, mais c'est la E6. Là.
Ouais.
Dans le cas de la E6, c'est une borne de recharge à haute tension, mais en triphasé, donc en courant alternatif triphasé. Donc, on n'est pas habitué, ce n'est pas le genre d'infrastructure de recharge haute puissance qu'on a ici en Amérique. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont fonctionner. Ils vont probablement devoir s'installer là, à des endroits stratégiques dans la ville, leur propre chargeur pour être capable de se charger. L'avantage qu'ils auront, c'est que c'est bien clair qu'il n'y aura personne qui va squatter leur borne ayant des bornes qui leur sont propres.
Je suis sûr qu'il y a du monde qui va être capable pareil.
Il y a des astucieux partout.
Ah oh, oui.
Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ceci dit, c'est pas, comme j'ai dit, c'est nouveau ici. Évidemment, c'est des standards de qualité, de fabrication. On est dans la voiture chinoise. On n'est pas très habitué à ça en Amérique.
On est mieux de s'habituer, par exemple.
Oui, je pense qu'il va en avoir, il va en avoir dans le futur un peu, pas mal, beaucoup. Ceci étant dit, je le répète, c'est pas des nouvelles bagnoles dans le sens où ça fait plusieurs années que ça existe et puis ils en font une puis un autre. Là. Donc, les voitures qui nous arrivent ici, là, c'est loin d'être des prototypes.
Ouais, non, hâte de voir ça. Tu sais, puis c'est une compagnie, c'est énorme. Là. Ils font des autobus, des camions, des chariots élévateurs électriques aussi.
Ah oui, tout à fait. C'est une immense compagnie qui est très connue en Europe, là, tu sais, mais ici, malheureusement, on est un peu moins habitué de voir ce nom.
Il faut traverser la grosse flaque d'eau entre les deux. C'est un petit peu plus compliqué, mais un coup qu'ils vont être ici, d'après moi, ça va être pour rester. Super. Donc, ça est notre dernier sujet. Tu veux nous parler d'un projet de loi que nous attendions avec grande excitation, le projet de loi 165, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps.
Exactement. Donc, j'en avais parlé, projet de loi 165, qui est un projet de loi qui modifie le code de la sécurité routière et qui, entre autres, parce qu'il y a un paquet d'affaires là-dedans, tu sais, une fois de temps en temps, les projets de loi, les lois qui sont en place, à toutes les X années, là, il y a des petites révisions, on ajoute des affaires, on en enlève. Faut être de son temps, comme on dit. Et puis, il avait déjà été annoncé que le gouvernement tramait à modifier le code de la sécurité routière, entre autres, et c'est le point qui nous intéresse, pour rendre les espaces de stationnement réservés aux véhicules électriques comme étant une disposition du code de la sécurité routière et non plus à la discrétion des villes. Je m'explique. Vous savez très bien que peu importe où, au Québec, si vous vous stationnez dans un stationnement pour handicapés, vous allez avoir un ticket. Ouais. C'est pas la ville de Montréal, c'est pas la ville de Longueuil, c'est pas la juridiction locale qui décide de donner ou de pas donner des tickets. C'est inscrit au code de sécurité routière. Au Québec, t'as pas le droit de te stationner dans un stationnement pour handicapés. Le problème, c'est que les stationnements pour les voitures électriques, ça faisait pas partie du code de sécurité routière. C'est relativement récent, voyez-vous. Et c'était à la discrétion de chacune des municipalités parce que les villes peuvent mettre leur propre règlement. Par exemple, il y a des villes que t'as pas le droit d'être dans un parc après 9 heures, d'autres c'est après 10 heures. Bon, chaque ville a une certaine partie de juridiction qu'elle peut contrôler. Et là, à date, ben, il n'y a pas grand ville qui avait des lois pour ça. En fait, la ville de Montréal, au centre-ville, donnait des stationnements, des billets de stationnement, donc aux automobilistes qui se stationnaient à mauvaise place, donc devant une borne de recharge, que ce soit une voiture électrique ou une voiture à gaz, t'es pas supposé te stationner là si tu te charges pas. C'est une place pour se recharger.
Exact.
Alors là, ce qui arrivait, c'est que quand quelqu'un se stationnait là à Montréal, tu pouvais appeler le numéro là, pour les tickets là, à Montréal, puis donner une contravention de stationnement comme l'équivalent d'un parcomètre là, expiré. Là, maintenant, et ça, là, je te parle, c'est juste la ville de Montréal. Les autres villes, c'était pas comme ça. Puis c'était encore bien moins ça si tu étais dans un stationnement, par exemple, dans un stationnement de, je sais pas moi, d'épicerie où il y a une borne de recharge. Quelqu'un pouvait stationner devant puis la bloquer. Puis là, bien évidemment, la ville ne peut pas donner d'étiquette parce que c'est un stationnement privé. Il n'y avait pas de loi qui s'appliquait. Là, le projet de loi qui a été déposé, qui devrait être en application sous peu, fait en sorte que les contrevenants vont avoir une amende entre 200 et 300 $ si quelqu'un est stationné devant une borne de recharge rapide dans un stationnement qui va être identifié sans se recharger. Ça veut dire que une auto à gaz, c'est sûr qu'elle va avoir un billet. Puis une auto électrique, ça n'est pas en train de se charger. Il y en a qui pensent que c'est des stationnements VIP qui se stationnent là et qui ne se chargent pas.
Ouais.
Ben, ils auront également des billets. Et là, ce qui est en train d'être regardé, c'est de quelle façon cette loi-là va s'appliquer, par exemple, dans le cas d'un véhicule qui va être branché, qui va se charger et que la recharge va se terminer. En fait, actuellement, et c'est comme ça que c'était considéré par la Ville de Montréal, c'est que le pistolet de ta borne de recharge, dans les bornes de rue, c'est des pistolets qui sont verrouillés. C'est-à-dire que pour être capable de prendre le pistolet, il faut que tu actives la borne avec ta carte. Donc, il faut que tu aies déclenché la borne de recharge avec ta carte, que tu te branches, que tu démarres la recharge. Et puis là, la borne se met là, à te facturer, tout dépendant des endroits, soit un tarif fixe ou la plupart du temps, c'est un tarif à la minute. Là, donc, t'es facturé une pièce dollar à la minute. Donc, il faudra que tu déclenches, que tu actives la carte, si tu veux, la recharge avec ta carte. Là, ce qu'on ne sait pas encore, c'est qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, quelqu'un de prendre sa carte, de démarrer la borne, de la brancher 3 secondes dans son auto et après ça, d'aller interrompre dans son véhicule la recharge. Parce que vous savez que tu peux, par exemple, si tu démarres la recharge de ton auto, puis que tu débranches le pistolet, puis que tu le rebranches dedans, puis que tu as mis une minuterie sur ton auto, par exemple, ton auto ne rechargera pas parce qu'elle est sa minuterie, mais pourtant le pistolet était ressorti, donc la borne a été activée. Là, actuellement, ce qui se passe, c'est que dès que tu mets ta carte, puis que la petite porte rouvre, puis que tu branches le pistolet, il y a un timer qui part dans la carte, puis tu es facturé, évidemment, pour ta recharge. Et tant et aussi longtemps que tu ne remets pas en place le pistolet, donc même si tu ne te charges pas, là, donc ta recharge est finie, mais tu restes stationné là pendant 3 jours, mettons, tu vas être facturé pour 3 jours de recharge.
OK, OK.
Fait que c'est un peu comme ça, que selon moi, là, parce que c'est pas inscrit encore dans le code, qu'ils vont être capables de déterminer, ils vont dire, il paye pour la recharge, il a le droit de rester là. Fait qu'il va falloir que tu actives la carte. Donc, autrement dit, si t'as pas besoin de te charger puis tu stationnes là pareil, tu vas être obligé de payer la recharge pareil. C'est un peu ça qui est le principe.
Okay.
Maintenant, c'est une question de gros bon sens. Je vois pas pourquoi. Parce que si on continue à rouler avec le nombre de stationnements pour voitures électriques qu'on a là, ça peut être problématique, mais étant donné qu'on prévoit quelque chose comme 2000 bornes de recharge de niveau 2 là, dans la région de Montréal, à un moment donné, il va en avoir assez, les gens vont pas se stationner puis se charger au besoin. Mais si tu vas là et tu n'as pas l'intention de te charger et que tu le fais pas, tu auras un billet. Puis s'il y a une auto à gaz, puis c'est souvent de ça qu'on se plaint, se stationne vis-à-vis une borne, donc bloque l'accès à une borne, il y aura également un billet. Mais là, c'est pas un billet de stationnement de 41$ plus les frais. Là, c'est un billet de 200 à 300$. Je ne suis pas un expert en loi, donc je ne peux pas te dire là, c'est qu'est-ce qui va déterminer, c'est-tu 200, 225, 250 ou 300 qui va te donner. Mais le texte de loi qui a été déposé est disponible. Là, il est disponible sur notre site web, mais si vous faites une recherche Internet, projet de loi 165, vous allez le trouver. C'est bien écrit que les contrevenants vont avoir une contravention de 200 à 300 $.
Bon. Ça va être juste bon.
Oui, ça va rétablir une situation parce qu'actuellement, il y avait de l'agressivité. Si on regarde un peu sur les réseaux sociaux, là, quand les gens arrivent et que c'est leur seule façon de pouvoir se charger puis de retourner chez eux après, il n'y a pas encore des bornes partout puis en très grande quantité. À Montréal, c'est pas trop pire, mais dès que tu sors un peu en région, là, quand tu es dans une ville qui a 3 bornes dans la ville, qu'il y en a 2 d'utiliser, puis à la troisième, il y a une auto qui la bloque, puis que t'es pogné là, c'est pas drôle, là. C'est comme je te disais, t'es en auto à gaz, puis il y a une station-service seulement, puis t'arrives là, puis il y a quelqu'un qui bloque l'accès à la station-service. t'es poigné sur le bord de la rue, c'est pas bien plaisant.
T'sais. Non, pas tellement. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais c'est une bonne nouvelle.
Et oui, donc maintenant, dès qu'on aura la date de mise en application de la loi, évidemment, on va le publiciser là, grandement, mais c'était présenté aujourd'hui, donc on est bien content que ça ait fait son chemin. Ça faisait déjà quelques mois qu'on savait que ça s'en venait, mais il n'y avait rien d'officiel. Maintenant que c'est déposé, ben généralement, rendu à cette étape-là, là, ils peuvent tasser des virgules, mais c'est assez, c'est une formalité, là, c'est assez décidé, donc il reste juste à la mise en application.
Super, Martin. Merci encore une fois d'être venu faire un tour pour nous parler de véhicules électriques, puis on se reparle dans un avenir proche.
Ben, ça me fait plaisir, mon cher ami.
Merci, mon cher. À la prochaine. Donc, nous, on va faire une petite pause et on revient tout de suite avec le bloc essai. Je suis de retour pour le dernier bloc de cette émission et ça va être un bloc essai. Essai de la semaine. Cette semaine, j'ai deux véhicules GM. J'ai le GMC Terrain Diesel et j'ai la Chevrolet Malibu Redline. Je vais commencer par le GMC Terrain. GMC Terrain qu'on avait déjà parlé sur l'émission, qui est un véhicule très intéressant, beaucoup plus joli. J'aime bien le fait que GM a commencé à arrondir un peu le design de ses véhicules. Avant, le GMC, c'était vraiment carré. Mais là, on a commencé à ajouter des rondeurs dans la calandre et un peu partout. Puis ça donne une beaucoup plus belle allure au véhicule. En tout cas, j'aime bien le look de ce véhicule-là. Donc, c'était un véhicule diesel. Consommation d'essence qui est quand même assez intéressante, là. J'ai terminé ma semaine avec une moyenne de 7,5 litres au 100 km. Pour un véhicule de cette taille-là, c'est bien. C'est sûr que c'est parce que c'est un diesel, sinon ça aurait été un peu plus élevé. Mais j'aurais pu probablement faire mieux si j'avais eu plus de trajets sur autoroute à faire et un peu moins de congestion dans la circulation et ces choses-là. Mais bon, quand on reste ou on travaille dans la région de Montréal, c'est des choses qu'on s'habitue avec. Côté intérieur, le véhicule est très, très joli. C'est bien fini. J'avais des sièges en cuir, une espèce de tan un peu foncé. Donc, c'était très beau, avec des accents noirs et puis beaucoup d'espace pour les jambes et tout ça. Donc, c'est un véhicule que j'ai bien aimé. La finition intérieure était très bien. C'est un moteur 1,6 litres, comme j'ai dit, turbo diesel, qui est dans ce véhicule-là. Et puis, jumelé à une transmission automatique à 6 vitesses. Côté extérieur, je l'ai dit, c'est un véhicule qui est très joli, qui a des belles rondeurs maintenant, qu'on a, on a retravaillé le véhicule. J'ai trouvé ça vraiment bien. On a aussi à l'intérieur le système de divertissement de GM, là, mais qui est en général la même chose un peu partout. C'est le seul système que j'ai eu un peu de problème avec, mais je veux pas dire que le système GM n'est pas bon, parce que c'est vraiment pas le cas, parce que je vais vous en reparler. Je l'ai eu aussi sur la... qui est sensiblement le même système dans la Malibu, j'ai eu aucun problème, mais dans le GMC, j'avais des problèmes à appareiller mon téléphone, j'avais de la misère à un moment donné, j'ai reçu un appel, puis j'étais capable d'écouter un podcast dans la radio, mais quand l'appel est rentré, bien, l'appel était sur le haut-parleur de mon téléphone et non pas sur les haut-parleurs du véhicule. Donc, je trouvais ça un peu bizarre, mais je pense que c'est peut-être juste un problème que j'ai eu avec ce véhicule-là. Là, c'est pas à la grandeur des produits GM. À date, j'ai eu zéro problème avec le système multimédia de GM. C'est fonctionnel, ça va très bien. C'est facile à appareiller son téléphone normalement. C'est assez complet. Seule chose que j'aime pas, c'est le système OnStar qu'il faut utiliser pour la navigation et ces choses-là. J'aimerais tellement un système de navigation intégré tout le temps, là, plutôt que d'avoir à appeler quelqu'un pour être capable d'avoir les directions pour aller à quelque part, puis que ça soit envoyé sur l'écran du GPS, là. Mais pour le reste, c'est un très, très bon véhicule. J'avais même le système, et j'ai eu la chance de l'essayer, qui est le système de vérification du siège arrière. Donc, on en a déjà parlé. Moi, je pars le matin, j'ouvre la porte arrière, je mets mon sac à dos. Dans mon sac à dos, j'ai mon ordinateur portable pour le travail. J'ai aussi un sac à lunch, je mets ça en arrière, je ferme la porte. Après ça, je m'assois sur le siège conducteur, puis je pars. Quand j'arrive au bureau, je stationne la voiture, je l'arrête. Et puis, on me dit « rappel de siège arrière, vérifiez ». Fait qu'on vous dit « vous avez mis quelque chose sur le siège arrière avant de partir ». Vérifier, voir, tu sais, pour le ramasser avant de partir. C'est sûr, pour moi, c'est un ordinateur portable, c'est un sac à lunch, c'est pas vraiment important, mais je me suis dit à quelques reprises, ça devrait tellement être dans tous les véhicules, ce système-là. Ça aurait sauvé des vies dans le passé, là, tu sais, surtout l'été, un enfant qui est oublié dans l'auto, on en a entendu parler, des histoires d'horreur d'un enfant qui est oublié dans l'auto et puis qui suffoque à cause de la chaleur et tout ça, là. c'est le genre de système que si la personne est un peu alerte et regarde et dit « Ah ben oui, c'est vrai, j'ai mis quelque chose sur le siège arrière », ça sauverait ces espèces de moments-là où on peut oublier quelque chose d'important sur le siège arrière. Oublier un portable, la pire chose qui peut arriver, c'est que la voiture se fasse défoncer, se fasse voler. Dans le cas d'un être vivant, que ce soit un chien, que ce soit un enfant, si on l'oublie en arrière, ben ça peut avoir des conséquences un peu plus graves. Donc, je trouve que c'est un très beau système. Je lève mon chapeau à GM pour ce système-là. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Et ça devrait être sur tous les modèles et dans toutes les compagnies, là, chez tous les constructeurs, ce système-là, ça pourrait vraiment être quelque chose qui, dans l'avenir, sauverait des vies. Aussi, bon, c'est un véhicule qui n'est pas peu dispendieux. La version que j'avais était 40 490 $. Donc, c'est pas extrêmement cher pour un VUS de cette taille-là. C'est quand même traction intégrale et tout ça, mais c'est quand même pas nécessairement dans le budget de tout le monde. C'est sûr qu'il faut aller chercher un modèle à essence qui va vous coûter un peu moins cher, mais le modèle diesel est quand même assez efficace. La seule chose que je me suis aperçu, c'est que dans ma municipalité, c'est pas toutes les stations d'essence qui ont une pompe diesel. Je suis arrivé à ma station d'essence habituelle. Je me suis stationné, j'ai regardé les pompes, j'ai dit « Ah, ici, il n'y a pas de diesel », et j'ai dû repartir et aller à une autre station d'essence plus sur le bord de l'autoroute où je savais qu'eux avaient du diesel, mais c'était pas ma station d'essence de prédilection. Celle que je vois normalement, c'est celle qui est plus à l'intérieur de la municipalité, non pas nécessairement sur le bord de l'autoroute. Mais bon, ça fait quand même le travail, j'ai pu remettre de l'essence et repartir. Donc, mais consommation qui est quand même assez intéressante là, avec 7,5 litres au 100 km, c'est pas à négliger pour ce type de véhicule-là. Deuxième véhicule que j'ai essayé, ben, c'est le Chevrolet Malibu édition Redline. Bon, faut pas nécessairement se laisser trop embarquer par le fait que c'est une édition spéciale. Là. Oui, c'est une édition spéciale, mais c'est une version LT de la Malibu. Donc, c'est une version assez de base de la Malibu à laquelle on greffe un ensemble d'apparences. Donc, c'est quoi? Ben, l'écriture, donc le nom Malibu, a des contours en rouge un peu partout sur la voiture, ben, sur les côtés et en arrière. Et puis, on a sur les jantes qui sont peintes en noir, on a deux petites lignes rouges qui donnent une allure assez agressive. Le restant, ben, les logos de Chevrolet sont peints en noir. J'aurais peut-être aimé ça les voir peints en rouge pour garder un peu le même thème rouge, mais bon, peint en noir, c'est quand même joli. Ça fait un petit peu plus agressif que le logo doré normal, là. Et puis la calandre est plus noircie, tout ça. Donc, c'est un véhicule que de l'extérieur est très, très joli, mais quand on s'assoit à l'intérieur, bon, on s'aperçoit que ça manque un peu d'équipement. J'avais pas de siège chauffant, pas de volant chauffant, ce qui est un peu décevant parce que j'ai quand même eu ça dans une semaine où il faisait encore plutôt froid, dois-je dire, mais quand même, je suis habitué, quand j'ai mon véhicule personnel, ben oui, ma Leaf a des sièges chauffants, volant chauffant, mais mon Ford Escape n'en a pas et c'est lui que je conduis le plus souvent entre deux véhicules de presse, donc je suis pas totalement plus habitué à ne pas avoir de siège chauffant, de volant chauffant. Ce que j'ai apprécié, par exemple, c'est que même dans cette version de base-là, il y avait quand même le système d'avertissement de siège arrière. Donc encore, toute la semaine, à chaque fois, je mettais mon sac à dos et ma boîte à lunch sur le siège arrière. Quand j'arrivais au bureau, j'avais un message qui me disait « avertissement de siège arrière ». Donc, c'est sûr que j'ai pas le choix. Si je ramasse pas mon ordinateur portable, je travaille pas. Puis si je ramasse pas mon lunch, je mange pas. Mais c'est quand même moins important que si c'était, encore comme je dis, un enfant ou un animal de compagnie qu'on laisse à l'arrière. Ça pourrait avoir des conséquences un peu plus fâcheuses. Mais même si je trouve que la Malibu manque peut-être un peu côté équipement là, pour le modèle de base, parce que si on va, mettons, chez Kia et chez Hyundai, les versions de base de la Sonata et les versions assez de base de la Kia Optima ont des sièges chauffants et un volant chauffant ou dans un modèle qui est quand même pas si dispendieux que ça. Mais ce qu'on n'a pas nécessairement comme équipement, on l'a comme douceur de roulement, comme confort et comme silence dans l'habitacle. L'habitacle de la Malibu est très, très silencieux et C'est aussi, c'est très, très confortable comme voiture. On se fait pas brasser. On sent, c'est un véhicule dans lequel on sent confiance, puis on ne sent pas nécessairement toutes les petites bosses dans la route, là. C'est vraiment très, très confortable comme conduite pour une voiture. C'est une voiture que j'avais conduite en version hybride de Montréal à Toronto il y a quelques années. Je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans, là. Je ne me rappelle pas exactement. Mais c'est un véhicule que j'avais beaucoup aimé, puis j'essayais de penser à est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais aimé mieux pour conduire entre Montréal puis Toronto dans ces conditions-là. Puis non, je voyais pas, là. C'est vraiment un véhicule pour faire. J'ai fait plus de 800 km avec, là. C'est un véhicule que j'avais beaucoup apprécié puis qu'il avait été très, très, très confortable, là, pour le trajet. On a un grand coffre, donc on est capable de mettre quand même pas mal de choses dans le coffre. Puis quand j'étais allé à Toronto, j'avais des choses à mettre dans le coffre. J'allais là pour le travail, donc j'avais des choses à mettre là pour apporter. Et puis, ça avait été hyper confortable. Système de divertissement qui est vraiment sans faille, ça marche très bien. Seule chose, comme j'ai dit, pour le GMC Terrain, c'est le système OnStar. J'aimerais avoir un GPS vraiment intégré où j'ai pas besoin d'appeler quelqu'un pour avoir des cartes, mais c'est rare que je m'en sers. Donc, c'est quand même pas si pire que ça, là. C'est, si je vais à des endroits que je connais pas, ben là, je m'en sers un peu plus, là. Mais normalement, j'ai pas vraiment besoin de GPS. Puis au pire, je l'ai dans mon téléphone. Il y a Android Auto, Apple CarPlay dans le système de divertissement, que ce soit chez GMC, Cadillac ou Chevrolet, là, même Buick. Donc, vous avez juste à utiliser au pire Android Auto, qui est pas parfait, mais qui fait le travail si on a besoin de GPS. Personnellement, Android Auto, je m'en sers très, très rarement. Pour écouter des podcasts, je me connecte directement au système Bluetooth de la voiture, puis pour le GPS, mais s'il n'y en a pas à l'intérieur, bien là, je vais me servir de Android Auto pour avoir l'affichage sur l'écran, pour ne pas avoir mon téléphone en main, là. Mais c'est quand même ça. Puis j'ai trouvé que le système GM, comme quelques autres systèmes, là, il n'y en a pas nécessairement beaucoup, mais quand ça va bien, là, est très, très rapide pour connecter le téléphone en Bluetooth sur le système de divertissement, là. Des fois, je démarrais l'auto, puis ça prenait pas, je vous dis, même pas 20 secondes, puis le podcast que j'écoutais la journée d'avant commençait déjà à jouer dans l'auto, puis j'avais pas eu besoin d'aller faire aucune manipulation, en autant que l'application est toujours ouverte sur votre téléphone. Et puis que vous avez mis le téléphone en mode téléphone principal, là, il va se connecter, puis vous n'aurez aucune manipulation à faire. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, très beau véhicule, le Malibu. Peut-être, comme je disais, un peu dispendieux pour le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'équipement, mais on le gagne sur le confort, là. De base, là, c'est un véhicule qui est à 26 545. L'édition Redline rajoute un 1445 $ pour un total de 28 090 $. C'est un beau véhicule qui a de la gueule, qui est très, très confortable, mais j'aurais aimé avoir volant chauffant et siège chauffant de base dans ce véhicule-là. Côté moteur, là, c'est un petit 4 cylindres turbo avec une transmission à 6 vitesses. Et puis côté consommation d'essence, j'ai fini ma semaine à 7,6 litres au 100 km, ce qui est très bien pour une berline de cette grosseur-là. C'est pas très, très dynamique en conduite, là. Vous ne battrez pas personne sur le 0-100 ou d'un stop à l'autre, là. Mais c'est pas quelque chose qu'on demande nécessairement d'un véhicule comme ça. Les accélérations sont très bien. Sur l'autoroute, les reprises sont bien. J'ai pas de côté massivement négatif à dire côté conduite sur ce véhicule-là. Donc, c'est pas mal tout pour les essais cette semaine. Je veux juste revenir sur quelque chose dont on parlait avec Martin dans le bloc précédent sur la loi, la pétition que l'AVEC avait envoyé au gouvernement du Parti libéral qui est au pouvoir. Eh bien, le Parti libéral a simplement refusé de rencontrer l'AVEC pour parler de cette pétition-là. Donc, je ne veux pas faire de politique sur l'émission. Je n'ai pas d'allégeance spéciale. Mon allégeance politique change selon les élections et selon ce que les partis font quand ils sont au pouvoir ou qui disent qu'ils feront quand ils sont au pouvoir et ne font pas un coup où ils sont rendus. Parce qu'on le sait, en politique, l'autre parti est toujours pourri quand quand t'es pas au pouvoir, et quand tu tombes au pouvoir, ben les rôles changent et c'est le parti qui est plus au pouvoir qui dit que l'autre est pourri parce qu'ils font nécessairement pas grand-chose. Mais bon, dans le cas du Parti libéral, ils ont décidé d'ignorer la pétition de l'AVEC, donc on sait pas ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir plus de bornes, pas plus de bornes? On n'a aucune idée, mais ça n'a pas l'air d'être une priorité pour le gouvernement du Parti libéral. On verra si s'ils seront reconduits aux prochaines élections ou si quelqu'un d'autre va prendre leur place et vont prendre ça au sérieux ou pas. On verra. Comme je vous dis, j'ai pas d'allégeance politique. Je vais écouter ce qu'ils ont à dire avant d'aller voter. Je n'ai pas une couleur tatouée quelque part pour un parti ou un autre précisément. Donc, merci d'avoir écouté cette émission cette semaine. J'espère que ça n'a pas été trop pénible. J'aime pas nécessairement ça, faire une émission seule. C'est pas vraiment dynamique. Mais bon, parfois, on n'a pas nécessairement le choix. Donc, j'espère que vous avez apprécié quand même. Et puis, on se revoit la prochaine fois. Bonne semaine tout le monde.